Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle, heureuse et sainte année 2025. Ça me semble vraiment incroyable de me dire qu'on est en 2025. Le temps est passé si vite, voilà. Je sais pas vous, mais moi je commence de plus en plus à comprendre lorsque les parents, enfin en tout cas moi il y a beaucoup de personnes âgées dans mon entourage quand j'étais petite. À chaque fois que genre il y avait une nouvelle année et c'était très en mode ah ça nous rajeunit pas tout ça. Et oui en fait, ça nous rajeunit pas tout ça. Genre je comprends tellement maintenant. Je suis là et je me dis, même vous à votre échelle, genre regardez tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes né, ça fait un paquet de choses. Genre vraiment, ça fait vraiment trop de choses. Et dans ces choses-là, il y a toujours des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Voilà. Des témoignages. Des trucs qui sont arrivés au moment où on s'y attendait pas, qui ont finalement eu une fin heureuse alors qu'on pensait que c'était complètement désespéré, des situations dont on a été sauvé. Bref, on a vraiment beaucoup de chance et je pense beaucoup d'éléments pour rendre grâce si on accepte d'ouvrir les yeux, parce que des fois on est juste dans le déni. Et c'est pour ça que pour commencer cette année, le premier épisode de 2025 qui, spoiler alert, n'a absolument rien à voir avec la mini-série qui est en cours. Parce que si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'actuellement on fait une mini-série qui aborde un peu la thématique de la souffrance. Et du coup ça doit faire 3-4 semaines, je pense, que sur Instagram vraiment on publie que du contenu par rapport à ça. Par rapport à la souffrance, à chaque fois on a un petit épisode qui essaie de répondre à une problématique. Bon, avec les congés de Noël et tout, j'avoue. On a arrêté de publier du contenu parce que fallait profiter de la famille. Mais plus sérieusement, voilà, j'ai mis une petite pause aux publications de la mini-série. Et si vous n'aviez pas encore regardé, c'est des séquences vidéo qui n'excèdent pas 5 minutes en général. Donc c'est des formats assez courts qui sont disponibles sur Instagram. Notre Instagram, comme d'habitude, dans la description de cet épisode si vous voulez tout savoir. Alors, Soul for Soul, c'est un podcast qui est dédié à la vie, à la religion et à la spiritualité. Et c'est pour ça que pour commencer cette année, on a tous et toutes besoin de se rappeler pourquoi est-ce qu'on est là. Chaque début d'année, il y a toujours la ribambelle de nouvelles résolutions que l'on prend. Et qu'en général, le commun des mortels n'arrive pas à suivre. Là, je dis en caricature, en très gros. Parce qu'en général, on a tendance à prendre des résolutions qu'on oublie en cours de route ou qu'on n'accomplit pas toujours. Et puis parfois, on prend même pas de résolution parce que souvent, la nouvelle année, c'est un peu un prétexte pour prendre des résolutions, tu vois. Parce que finalement, on se rend tous compte que chaque jour est une occasion pour faire quelque chose de nouveau. Chaque jour est une occasion pour tout recommencer. Chaque jour est une occasion pour prendre un nouveau départ. Donc en soi, la nouvelle année, c'est un peu un prétexte pour se forcer à prendre ce nouveau départ-là. Ou à évoluer avec ce qu'on a déjà comme base. Mais je trouve que même s'il y a des personnes qui banalisent le fait de faire ça, parce que justement, on met ça un peu dans la case prétexte, c'est super important de commencer l'année en ayant une idée de là où vous voulez aller. On vous demande même pas genre d'avoir 100 000 objectifs. Mais parfois c'est mieux d'en avoir un ou deux sur lesquels vous allez vraiment vous concentrer, plutôt que 40 000 objectifs qui vont vous éparpiller et que vous n'allez pas forcément accomplir. Du coup, voilà. Moi, je suis chrétienne. Donc, sur ce podcast, on parle très souvent en fonction de la religion chrétienne. Mais en général, c'est des principes qui sont vraiment applicables à tout le monde et avec lesquels on peut tous se retrouver. Il faut savoir que l'église catholique, c'est vraiment une église qui est très, très, très organisée. Elle a des textes qui sont déjà préparés pour tous les jours de l'année, pour toutes les messes de l'année, pour tous les chants de l'année. Genre vraiment, il y a plein de textes qui sont déjà préparés, issus de la Bible et qui ont tous des liens entre eux. Vraiment, c'est incroyable. Et en général, quand on commence l'année, je pense que tout le monde ici connaît l'épiphanie, a.k.a. la fête des rois mages, a.k.a. la galette des rois. Et il faut savoir que du coup, le premier dimanche de l'année, en général, dans l'église catholique, c'est le dimanche au cours duquel on célèbre
l'épiphanie, la galette des rois, qui coïncide avec la galette des rois dans le monde entier. Faut pas croire que genre l'église catholique a un dimanche à elle pour fêter ça, et puis genre le monde a un autre. Non, c'est le dimanche de la galette des rois. Et ce dimanche-là, enfin, les dimanches du coup de la galette des rois, la lecture qui est faite, en général, c'est quoi? C'est la lecture de l'épisode des rois mages. Donc, très 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 grossièrement, si je dois vous résumer l'épisode des rois mages, qu'est-ce qui se passe? On a bébé Jésus, qui est né à Bethléem, le coin paumé, mais vraiment paumé de l'époque. Voilà. Il est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour maman Marie, sa mère, et papa Joseph dans les hôtels du coin. Donc il est né dans une mangeoire au milieu des animaux et compagnie. Si vous avez déjà vu une crèche, je pense que vous avez un peu le schéma dans la tête. Ils sont dans une mangeoire, Jésus est dans une mangeoire, ils sont dans un truc qui ressemble un peu à une ferme, mais c'est pas tout à fait une ferme. T'as des ânes à côté, et puis t'as des petites brebis à côté. Et en général, dans cette crèche, tu as trois rois mages qui viennent avec des cadeaux. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, dans l'histoire, tu as effectivement des mages qui viennent voir Jésus avec des présents. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et comment est-ce que ces mages, ils se sont retrouvés devant Jésus? Ils se sont retrouvés devant Jésus parce qu'ils ont observé une étoile qui... Et ils ont suivi cette étoile-là. Ils ont suivi cette étoile-là. Et ça les a amenés à la position de Jésus. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de manière très, très, très sommaire, très grossière. Mais on va aller plus dans les détails parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à tirer de cette histoire. Je vais vous lire l'histoire des rois mages, textuellement, selon la Bible. Alors, faut savoir que la Bible est composée de plusieurs livres. Si vous ne saviez pas, Bible, bibliothèque, des mots de la même famille, parce que c'est la même idée de tu as plusieurs livres en fait qui sont rangés. Et en fait, dans la Bible, tu as plusieurs livres et tu as deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament, donc avant que Jésus vienne, et le Nouveau Testament, après que Jésus vienne. Désolée si j'explique vraiment petit à petit, parce que je sais que ça peut embêter les personnes qui connaissent déjà toute l'histoire, mais je pense que c'est vraiment important parce que je veux vraiment que tout le monde puisse comprendre cet épisode, vu que pour moi, il est super important. Donc, la partie après la venue de Jésus s'appelle le Nouveau Testament. Et dans cette partie-là, on a les évangiles. Les évangiles qui racontent la vie de Jésus. Et en fait, on a quatre évangiles. Et ces quatre personnes qui marchaient avec Jésus, qui étaient des apôtres de Jésus, qui ont écrit ces évangiles. Donc, c'est comme si en fait, tu as la même histoire avec quatre points de vue différents. Et en fonction de la personne qui écrit l'évangile, en fait, ça appuie plus sur certains points que d'autres. Il y a des petites nuances au niveau des phrases, il y a des petites différences au niveau de la construction. Mais c'est vraiment l'idée. Du coup, on va lire Matthieu chapitre 2. Voilà, Matthieu chapitre 2. Je ne sais pas si je vais vous lire tout le chapitre 2, mais allons-y. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 2, version de la Bible catholique Crampon de 1923, disponible sur l'application Bible. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les princes des prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, de Judée, selon ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui doit paître Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, apprit d'eux la date précise à laquelle l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ayant entendu les paroles du roi, Ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bon. On va s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter là. On va sauter 3 versets. Donc là, j'ai lu du verset 1 au verset 12. Et si on reprend au verset 16, on a « Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans les environs, depuis l'âge de 2 ans et en dessous, d'après la date qu'il connaissait exactement par les mages. » Point. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette phrase en plus? Vous allez comprendre par la suite que cette phrase-là a fait la différence dans mon analyse. C'est parti. Donc, déjà, le premier point, c'est que on croit tous, en tout cas moi, jusqu'à il y a 2 semaines, j'étais convaincue que les rois mages, ils étaient 3. J'étais convaincue qu'ils étaient 3, alors que comme je vous ai dit, le texte de l'Épiphanie des rois mages, on me le lit chaque premier dimanche de l'année depuis que je vais à l'église. Voilà. Donc a priori, on va dire depuis que je prends conscience un peu des choses, on va dire a priori depuis une bonne quinzaine d'années, pour ne pas dire plus. Et c'est une histoire qu'on croit connaître parce que du coup, à force qu'on nous la répète et qu'on la réécoute, on a l'impression qu'on la connaît et ça fait qu'on est de moins en moins attentif à ce qui est dit. Ce qui est normal et naturel et totalement humain. Parce que j'ai envie de vous dire qu'on vous raconte un truc pour la première fois. En tout cas, si le truc vous intéresse, naturellement, vous êtes beaucoup plus attentif que quand on vous raconte le truc pour la 20e fois. Ce qui est totalement normal. Et j'ai l'impression que c'est vraiment parce que le cerveau, c'est comme s'il enregistre, qu'il connaît déjà l'histoire, du coup tout de suite il est moins concentré. C'est pas que vous faites un effort de vous dire « Ouais, je connais déjà l'histoire donc je suis moins concentré. » Genre vous le faites vraiment inconsciemment parce que je pense votre esprit il se dit « Je connais déjà. » Alors qu'en fait, à force de croire qu'on connaît, on passe à côté de détails hyper importants. Comme le fait que les mages, ils étaient pas rois, ils étaient pas 3. À aucun moment dans la lecture, mais genre vraiment, à aucun moment dans la lecture ici, on nous dit qu'il y avait 3 rois mages. À aucun moment. Pourtant, moi, depuis que j'étais née, j'ai toujours cru qu'ils étaient 3. En plus, dans la fameuse crèche, ils sont 3. Donc pour moi, vraiment, ils étaient 3. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait pas de débat. J'ai posé la question à mes potes il y a 2 semaines. Même combat. Genre vraiment, même pour eux, c'était genre logique. Ils étaient 3. En tout cas, minimum 3. Parce que pour eux, bah, comme moi, ça allait de soi. Depuis qu'on est petit, on nous dit ça, donc on voit pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas 3? Sauf que, comme je vous ai dit, à aucun moment, on a précisé leur nombre. On sait qu'ils étaient plusieurs, mais à aucun moment, on nous dit qu'ils étaient 3. Ensuite, on les appelle aussi les rois mages. En tout cas, en général, quand on parle d'eux, on dit les rois mages. La preuve, la galette des rois. Parce que c'est la galette des rois mages, en fait. Donc, on l'appelle la galette des rois. Alors que les mages, ils étaient pas rois. Vous voyez, les mages, ils étaient pas rois. A priori, ils étaient pas croyants. C'était mages, magiciens, bon, en tout cas, des mi-scientifiques, mi-spirituels, voilà. Ils étaient pas juifs, en tout cas. Ils étaient encore moins chrétiens, parce qu'à l'époque, être chrétien, ça n'existait pas. Et du coup, on peut se dire que c'était très, très, très probablement des personnes athées. Soit des personnes athées, soit des personnes déistes. Les déistes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes qui croient en Dieu. C'est-à-dire, eux, pour eux, il y a un Dieu qui existe. Point. C'est pas... Eux, ils sont pas dans l'histoire de c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, ou bien c'est le Dieu de... Non, eux, pour eux, en tout cas, il y a un Dieu qui a créé le monde. Et puis, voilà. Ça, c'est les déistes. Donc, pour moi, ils étaient soit athées, soit déistes. En tout cas, mi-mystiques, machin, machin. Vous avez compris l'idée. Et... Eux, ils viennent d'Orient, donc ils ont vu une étoile en Orient, et c'est pour cela qu'ils ont suivi cette étoile jusqu'à arriver chez Hérode, qui était roi à cette époque-là. Et le culot, en fait, de cette histoire, c'est vraiment que vous avez les mages qui viennent devant Hérode et qui lui disent, en gros, Il y a un roi qui vient de naître. Il est où? Tout en sachant que Hérode était le roi à ce moment-là. C'est-à-dire, tu viens devant le roi. En fait, je ne sais pas si vous réalisez, parce que moi, pour moi, c'est vraiment incroyable. Tu viens devant le roi et tu dis au roi, il est où le roi? Je ne sais pas si vous voyez. Et le truc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand ils ont demandé à Hérode où était le roi, Hérode leur a pas dit « C'est moi ». Il leur a pas dit « C'est moi, wesh ». Il leur a pas dit « Je suis là ». Parce que Hérode, en fait, bon, il y a un petit débat sur est-ce que Hérode est juif, Hérode n'est pas juif. Bon, on va admettre, ok, qu'il est juif. En tout cas, roi des juifs à l'époque. Et Hérode, il va avoir une réaction vraiment qui peut être étonnante. Parce qu'il va être, troublé, certes, mais il ne va pas contredire, en fait, ce que les mages ont dit, vous voyez. Il ne va pas le contredire. Parce que comme il a le background juif, il sait que les signes que les mages sont venus lui annoncer, en fait, ça veut dire que le Messie est arrivé. Ça veut dire que le Messie est arrivé. C'est pour ça qu'il a rassemblé les princes, les prêtres, les scribes. Bon, les scribes, c'est comme des prêtres, etc. Et ensuite, il a dit aux mages, parce que du coup, il est fourbe, ce Hérode, voilà. Il a dit aux mages, oui, allez voir où est l'enfant, et puis quand vous l'avez trouvé, vous me dites, comme ça, moi aussi, je vais aller là-bas. Bon. Admettons. Admettons. Donc, ils vont entendre la parole du roi et ils vont partir, les mages. Ils vont partir et ils vont suivre l'étoile. Autre chose très intéressante. Parce que le christianisme n'est pas pour tout ce qui est astrologie, la foi en les étoiles, etc., etc. En général, on va dire c'est proscrit. Et bon, comme beaucoup de choses qui sont proscrites, c'est pas sans raison. Mais du coup, ils vont suivre l'étoile qui va les mener à Jésus et ça va passer crème. Ça va vraiment passer crème. Pourquoi est-ce qu'ils vont suivre cette étoile? Parce que c'est ce en quoi ils croyaient. Les mages, c'est ce en quoi ils croyaient. Comme je vous ai dit, ni scientifique, ni mystique, etc. Donc eux, l'étoile, c'est un signe pour eux, c'est ce en quoi ils croient. C'est ce en quoi ils mettent leur foi. Donc ils sont dedans jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette étoile qui va devenir un signe, en fait, pour eux, pour les mener à Jésus. C'est-à-dire, Dieu va se servir de leur moyen de compréhension du monde pour communiquer avec eux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, Dieu sait qu'à ce moment-là, les mages, ils ne le connaissent pas. Donc, il va utiliser les moyens qu'ils peuvent comprendre pour les amener où il veut les amener. Et les mages, ils ont pu suivre cette étoile parce qu'ils ont été attentifs à ce qui était autour d'eux. Ils ont été attentifs à ce qui se passait autour d'eux. Et quand ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose de curieux qui les intéressait, ils ont cru quelque chose et ils sont allés jusqu'au bout de leur croyance. Parce que, en vérité, le bout de leur croyance, c'était de leur permettre de rencontrer Dieu. Et c'est la rencontre qui allait changer toute leur vie. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment la rencontre qui allait changer toute leur vie. Et Dieu est le meilleur des pédagogues. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu leur faire une apparition miraculeuse avec un ange. Non, Dieu a vu, il a vu les mages, il a fait « Cela, c'est la langue. » C'est quand ils voient les étoiles, ils comprennent. Donc, on va utiliser les étoiles pour leur permettre de me rencontrer. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand ils vont tomber sur Jésus, ce qui est intéressant quand ils vont tomber sur Jésus, c'est qu'on sait tous ici, comme j'ai commencé, que Bethléem, c'est un coin paumé. Le bébé Jésus, dans la mangeoire, Marie, ça se voyait qu'elle ne resplendissait pas de richesse à ce moment-là, même si sa richesse spirituelle était là. Et le truc, c'est que de la même façon dont nous, on écoute des histoires qu'on connaît déjà, donc ici l'histoire des mages, on a l'impression qu'on la maîtrise déjà, et on a des a priori sur la chose, c'est de la même façon dont les mages, ils étaient convaincus qu'ils venaient trouver un roi. Et ce qu'ils ont vu, ça avait rien de royal. Ça avait rien, mais absolument rien de royal. Mais malgré le fait que dans la forme, ça n'avait rien de royal, dans le fond, ils ont eu les yeux pour voir. Et ça les a suffisamment touchés pour qu'ils puissent se prosterner. Tout en sachant qu'ils étaient dans une grande joie. Parce que quand ils ont vu l'étoile s'arrêter, entre très gros guillemets, au-dessus de la maisonnée. Ils étaient dans la joie, en fait. Ils savaient que au tout dé, là, tout dé, genre, aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont vu le Messie, au fait. Et le truc, c'est vraiment que ils ont vu que ça n'avait rien de royal, mais ils se sont pas laissés prendre par leurs a priori, vous voyez. Ils se sont quand même prosternés et ils ont quand même offert les cadeaux. Vous voyez, ils ont offert les présents. Il y a une, bon, l'or, l'encens et la myrrhe, chacun sa signification. Je ne les connais pas, donc je ne m'avancerai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont quand même offert ces cadeaux-là, qui étaient des présents pour un roi. Sachant que numéro 1, bébé Jésus, à l'époque, il avait quelques jours, quelques semaines, tout au plus quelques mois. Bébé Jésus n'avait pas besoin de l'or, de l'encens et de la myrrhe, en fait. Parce que déjà, sa royauté était dans les cieux, et puis ensuite, en sa personne de bébé, entre très grosses griffes, il n'en avait que fait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais c'était des cadeaux pour un roi. Et les mages, ils ont su voir ça à l'intérieur de Jésus, en fait. Je sais pas si vous voyez. Et autre chose intéressante aussi dans cette histoire, c'est que quand ils ont fini de rencontrer Jésus, de donner leurs cadeaux, au passage, c'est parce qu'il y a trois cadeaux qu'on dit qu'ils sont trois. Voilà. C'est parce qu'il y a trois cadeaux qu'on dit qu'ils sont trois. Parce qu'on se dit, ouais, il y a trois cadeaux, comme ça, chacun est venu avec un cadeau, et puis ils sont trois mages, et puis voilà. En gros. Et, que disais-je ? Oui. Donc, au retour, ils vont pas retourner chez Hérode. Ils vont être avertis en songe par un ange et ils vont prendre un autre chemin. Et c'est pour cela que je vous disais que Dieu est un fin pédagogue. À l'aller, Dieu a parlé avec eux dans le langage qu'ils comprenaient. Mais au retour, Dieu a utilisé ses méthodes à lui. Parce qu'il savait que maintenant, les mages étaient disposés à ses méthodes, en fait. Si les mages n'avaient pas rencontré Jésus, ils n'auraient pas été capables de reconnaître l'ange, ils n'auraient pas été capables d'avoir le songe et de comprendre en fait ce que le songe signifiait. Ils n'en auraient pas été capables. Mais parce qu'ils ont été disposés à l'écoute de Dieu et qu'ils ont rencontré le Christ, c'est possible maintenant et c'est pour ça que Dieu utilise ses moyens à lui pour leur parler. Donc il faut vraiment se dire que déjà en général qu'on est, c'est même pas en général même, c'est comme ça, qu'on est ouvert et disposé à recevoir les signes de Dieu, on sait les reconnaître. Mais on peut d'autant plus les reconnaître qu'on a rencontré Jésus, en fait. Quand tu sais qui est Jésus, quand tu peux avoir entre très grosses griffes un signe et savoir que ça, c'est un signe et ça vient de Dieu. Parce qu'il ne faut pas croire que le diable n'essaie pas de te tenter ou bien de t'envoyer des trucs aussi, hein. Mais c'est la rencontre avec Dieu qui te permet de voir en fait que ce qui est exposé à toi, la parole que tu as entendue, la vidéo que tu as vue, la musique que tu as écoutée, la parole que tu as, je sais pas moi, en tout cas ce sur quoi tu es tombé, le rêve que tu as eu, c'est un signe, ça vient de Dieu. Je sais pas si tu vois. Donc déjà, ça c'était super intéressant, mais vraiment hyper intéressant. Et pourquoi est-ce que je vous ai lu le dernier verset avec Hérode après? Parce que Hérode, il a vu que les mages l'ont, bon, on va dire les mages l'ont berné. Il est rentré dans sa folle colère, il a décidé qu'il allait tuer tous les bébés 2 ans et moins. Intervalle 0-2, fermé. Il a décidé qu'il allait tuer tous les bébés. Alors que Hérode, comme je vous ai dit au début, Hérode, il a le background juif, donc il savait que le Messie était arrivé. Il savait, il avait conscience que c'était le Messie qui arrivait. Autant les rois mages, ils savaient pas que c'était le Messie qui arrivait. Ils savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Ils savaient que c'était un roi. Mais ils savaient pas que c'était bébé Jésus qu'ils allaient trouver. Je sais pas si vous voyez. Hérode, il savait tout ça. Et il n'a pas hésité à tuer des milliers de bébés. Hérode, en fait, c'est la figure de la personne qui connaît Jésus, en tout cas qui croit connaître Jésus, mais quand je dis Jésus, c'est Dieu, hein. Quand je dis Jésus, là, c'est plus dans le sens de Dieu, qui croit connaître Dieu, qui se présente comme ayant la foi, mais au moment où Dieu se révèle à lui, il ne veut pas. Au moment où Dieu vient prendre la place qu'il doit avoir dans sa vie, il ne veut pas. Et c'est là que ça devient dommage. C'est là que ça devient dommage parce que c'est là que je réalise en fait que nous, êtres humains, on est là Et l'enjeu de notre vie, finalement, c'est quoi? Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'enjeu de notre vie, et je le dis pour nous tous, hein, pour moi, c'est notre enjeu à nous tous, c'est de pouvoir être capable de reconnaître Dieu quand il va se révéler à nous. Quand il va venir nous visiter. Peut-être que j'extrapole, peut-être que j'exagère, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, même si c'est pas l'enjeu de notre vie entière, c'est pas des moindres. Hein. C'est vraiment pas des moindres. Pour moi, c'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on sera capable de reconnaître Dieu quand il viendra se révéler à nous, quand il viendra nous visiter? Est-ce qu'on sera comme Hérode, prétendument croyant, mais pas d'accord quand Dieu va venir prendre sa place dans nos vies à nous, vouloir toucher nos cœurs à nous, avec ce que ça entraîne? Parce que, bien évidemment, quand tu décides de suivre Jésus dans tout ce que ça englobe, et quand Dieu vient se révéler à toi dans tout ce que ça englobe, ta vie change. Ta vie change du tout au tout. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne faisais pas que tu vas te retrouver à faire. Et le truc, c'est que souvent, on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt à passer le cap. On n'est pas prêt à faire des choses. On n'est pas prêt à se donner entièrement à Jésus, à Dieu. Alors que, si on veut, on n'est pas prêt. Hein. Mais vraiment, il faut qu'on soit prêt le jour où Dieu va, lui, va venir à nous. Je sais pas si vous voyez. Parce que c'est très, 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 très important. Il y a ce passage dans l'évangile qui est vraiment une de mes hantises. Et j'avais partagé ça avec un de mes meilleurs amis qui me disait que pareil pour lui. C'est vraiment cette idée de... En fait, il y a Jésus à un moment, je sais plus où dans l'évangile, mais il est vraiment en mode... Il y a des personnes à la fin des temps, à la fin du monde, parce que la fin des temps et la fin du monde, c'est pas la même chose. Il y a des personnes à la fin du monde qui vont venir me trouver et qui vont me dire, qui vont l'appeler genre mon frère, lui dire qu'ils le connaissent, qu'ils sont ses amis, etc. Et Jésus va leur répondre qu'il ne les connaît pas. Jésus va leur répondre qu'il ne les connaît pas, qu'il ne voit pas qui ils sont. Et si on refuse d'accueillir Jésus au moment où il se présente à nous, où il nous tend la main, ce qui arrive en général tous les jours, il y a problème. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans la même idée, dans le même combat, l'évangile du dimanche hier, voilà. L'évangile du dimanche d'hier, c'était quoi? Le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est un texte que je trouve très, 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 très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je vais essayer d'être un peu plus courte parce que c'est vraiment les mêmes idées. Pour moi, c'est les mêmes idées. Je vais essayer de vous lire le texte. Oui, ok, le texte est court. Du coup, là, les références, c'est Luc chapitre 3. Donc Luc, c'est un autre évangéliste. Voilà. Luc chapitre 3, versets 15 à 16. Puis 21 à 22. En ces temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » C'est... Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, mais c'est assez extraordinaire, hein. Luc lui-même qui écrit cet évangile, on sent qu'il a du mal à décrire ce qui se passe en fait. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, descend comme une colombe. C'est-à-dire, le mec lui-même, il a un peu de mal à décrire ce qu'il se passe parce que c'est vraiment extraordinaire. Sachant qu'avant avant le commentaire de l'Esprit Saint sous une apparence, il y a le ciel s'ouvrit. En fait... des fois, je lis la Bible et je sais pas si vous, si les personnes réalisent au même point que moi à quel point est-ce que parfois les descriptions sont extraordinaires. À quel point est-ce que, c'est-à-dire, le ciel s'ouvrit. Et en fait, là, c'est vraiment écrit comme Jésus priait, donc le ciel s'ouvrit. Incroyable, incroyable. Là, on est vraiment sur démonstration de la puissance de la prière, en fait. Bref, on n'est pas là pour faire pour avancer dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait un peuple qui était en attente. Un peuple qui était en attente, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. J'avais dit cousin germain, mais je ne suis même pas sûre. Bref, c'est le cousin de Jésus. Jean, lui-même, il a passé son temps à dire « Oui, je ne suis pas le Messie, mais il arrive, préparez-vous. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Celui qui arrive, il va vous baptiser avec le feu, etc. etc. Je ne suis pas digne de mettre ses sandales. » Jean-Baptiste, il a répété maintes et maintes fois que ce n'était pas lui le Messie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui partaient voir Jean-Baptiste pour se baptiser, ils étaient en quête en fait. Ils voulaient voir le Messie. Ils étaient là pour ça. Vous voyez ? Ils étaient là pour ça. C'était vraiment le truc de « Bon, on n'a rien à perdre, on veut voir le Christ, si c'est lui, tant mieux, si c'est pas lui, tant pis. » Et en fait, à force d'aller, va arriver le jour où Jésus va être au milieu d'eux. Et c'est vraiment, dans cet évangile-là, c'est le même combat que l'autre, mais d'une façon différente. Parce que là, on a eux tous, ils s'en vont, eux tous, ils viennent chez Jean-Baptiste. Ils attendent le Christ. Et puis vient un jour où le Christ lui-même, il vient dans le rang pour se faire baptiser. Ça passe totalement inaperçu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si les gens qui étaient en attente avaient vu, avaient compris que c'était le Messie, ils auraient eu une réaction. Et c'est là que, encore une fois, ça devient dommage. Ça devient dommage parce que, ok, vous allez me dire, ils n'ont pas remarqué que Jésus était Jésus. Il n'y a pas de souci. Mais la démonstration incroyable avec le ciel qui s'ouvre, la colombe, blablabla, ils ne l'ont pas vu aussi. Ils ne l'ont pas vu également. C'est touchant. C'est très touchant. Encore une fois, croyez-moi, si les gens avaient vu la démonstration, tout ça, ils auraient réagi. Là, ils sont vraiment restés de marbre. Et c'est grave. Ça veut dire qu'il y a des trucs extraordinaires qui peuvent se dérouler devant nous. Et parce qu'on n'a pas la foi nécessaire pour, on passe complètement à côté. Mais complètement. Et c'est-à-dire que là, on a vraiment Jean-Baptiste qui est le serviteur. Et en fait, on est tellement attaché à la personne du serviteur que quand, on va dire, le Christ est là, on n'arrive pas à le rencontrer. Parfois, on est attaché au prêtre, au pasteur, au prophète, à la personne qui nous a vraiment, qui a changé notre vie en église, etc., etc. Mais toutes ces personnes-là, c'est Jésus qu'elles servent. Elles ne sont pas Jésus. Et parfois, on a tendance à les prendre comme Jésus, alors que c'est absolument pas le cas. Et parfois, on le fait même inconsciemment. Donc, vraiment, le plus important, c'est le Christ. Le plus important, c'est Jésus que vous devez rencontrer. De la même façon, on peut passer toute notre vie à Jésus, à l'église, en passant à côté de la rencontre avec Jésus. Et c'est pour ça que je dis vraiment que l'enjeu de notre vie, c'est de créer une relation avec Jésus, pour avoir la foi, pour être prêt au moment où Jésus va se présenter à nous, au moment de la rencontre. Il faut toujours être prêt parce que, comme on le dit dans je ne sais plus quel évangile, mais je mettrai la ref en description, on ne connaît ni le moment, ni l'heure. Donc, Jésus. Jésus lors du baptême. Le message de Jésus lors du baptême, c'est quoi? Jésus vient et il nous dit « Ce que je vis, je veux que tu le vives. Je veux que toi, à ton échelle, tu le vives. » Parce que Jésus, en soi, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Hein, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais il s'est fait baptiser quand même. Et il a prié, et le ciel s'est ouvert, et l'Esprit Saint est venu, et Dieu a fait sa déclaration. Donc vraiment, c'est vraiment cette idée de Jésus te dit que ce qu'il a vécu à ce moment-là, il veut que toi aussi tu le vives en fait. Et pour vivre ça, on fait comment? Pour vivre ça, on ose rentrer dans l'intimité d'une relation avec Dieu. Pour que toi, moi, nous, bref, qu'on soit rentré dans cette intimité de la relation, on puisse nous aussi entendre en nous Dieu qui va nous dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. » Et c'est ça qui donne la force extraordinaire d'avancer pour déplacer les montagnes, etc. Donc, voilà. Moi, c'était le message que j'avais pour vous en cette nouvelle année. Je ne voulais pas excéder les 45 minutes. Je suis dans mon temps. Parce que je me suis dit, si je fais trop long, peut-être que... Sniff. Mais voilà, moi c'était vraiment le message que j'avais pour vous en cette nouvelle année. C'est vraiment les pensées que je veux qui vous habitent. C'est vraiment, en tout cas moi c'est ce qui va m'habiter. Et je vais me battre pour que ça m'habite jusqu'à la fin de l'année. Parce que je me dis c'est trop important. C'est trop important. Au début de l'année, en plus c'est vraiment le moment où il faut préparer son mindset sur les choses qui sont vraiment essentielles, vraiment importantes. Et donc là, en l'occurrence, ces deux premiers dimanches de l'année 2025 nous ont rappelé à quel point ce qui est important, c'est vraiment construire notre relation avec Jésus pour pouvoir le reconnaître au moment où il va se présenter à nous. Tous les jours, depuis que je suis née, on est là, et je suis sûre que vous avez probablement entendu ça aussi, si en tout cas vous venez de famille chrétienne. Jésus revient bientôt. Bon, ça fait peut-être presque 2000 ans, on dit ça. Du coup, parfois, on réalise pas bien que Jésus revient bientôt pour de vrai, en fait. Jésus revient bientôt pour de vrai, et il vient très certainement tous les jours à ta rencontre, mais c'est juste toi qui n'es pas disposé, en fait. Donc voilà, en cette nouvelle année, moi, je nous souhaite tous une belle, heureuse et sainte année. Une année avec plein d'occasions d'être heureux, plein d'occasions de jubiler et surtout qu'on ne rate aucune occasion de rencontrer Jésus quand il va venir à nous. Voilà, donc c'était mon message pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous habite, que le Seigneur reste avec vous en cette nouvelle année. Et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un nouvel épisode. On se retrouve sur Instagram pour des formats de vidéos et la suite de la mini-série. Et puis à partir d'aujourd'hui, voilà, cover coloré. Chaque épisode aura sa cover, comme j'avais fait avec les épisodes qui parlaient de l'amour. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y. Et voilà, je file. Que Dieu vous bénisse. Amen.